des élèves d'une classe de 5e du collège La Côte Roannaise et de leur professeur de musique Bruno Bertola sur une après-midi d'exploration, d'expérimentation, de recherche, d'invention à partir d'une œuvre, l'oracle de papier, imaginé, composé par le compositeur belge, Romain Dejar, compositeur avec lequel nous serons également dans quelques instants en liaison téléphonique depuis la Belgique où celui-ci réside à Metz. Alors, faire de la musique avec du papier, produire des sons à l'aide de feuilles de papier. C'est le propos de l'œuvre de Baudouin Dejar avec son oracle de papier dans lequel il invite les interprètes à jouer avec de nombreuses modalités de jeu qu'offre une feuille de papier. De la frappe au déchirement, on appréhende ainsi une nouvelle forme de musicalité par la découverte des sonorités nouvelles de cet objet usuel qu'est le papier.
Thank you.
séance sur Radio B, rencontre autour de l'oracle de papier du compositeur Baudouin de Jarre. Nous avons entendu Una Nota, cette œuvre pour clarinette soprano que Baudouin de Jarre a créée, imaginée en 1988 et qui a été créée justement par ce merveilleux musicien clarinettiste qu'est Jean-Pierre Peuvion et qui lui réside à Liège. Et j'ai un souvenir ému en pensant à lui puisque il y a 2 ans, nous avions pu justement se rencontrer, converser à Liège avec lui autour de sa musique et autour des compositeurs avec lesquels il a travaillé, dont Baudouin de Jarre fait bien évidemment partie. Et vraiment, c'est une magnifique œuvre, une œuvre dont il en parle ainsi, Jean-Pierre Peuvion, en disant « C'est le rêve qu'un seul son bien chargé porterait l'histoire du monde. Qu'un seul son qui toucherait mon sommeil me ferait miroiter comme un haka les cartographies de l'univers. » Voilà, c'est sur ces mots, Baudouin de Jarre, que je vous accueille dans notre émission et que je vous remercie justement d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous.
Bonjour Alain Goudard et merci à vous de m'inviter dans votre émission et de pouvoir y participer. Je suis très honoré, merci beaucoup.
Non, c'est un plaisir de vous accueillir. Alors je voudrais rebondir justement à partir de cette phrase de Jean-Pierre Peuvion et je la recite volontiers tellement elle me semble importante sous un sens général mais aussi bien évidemment par rapport à votre démarche artistique. Et je la recite, le rêve qu'un seul son bien chargé porterait l'histoire du monde. C'est ce qu'il écrivait, donc, à propos de l'œuvre que nous venons d'entendre. Et je trouve que vous avez, Baudouin de Jarre, un rapport très fort, justement, très physique avec le son, avec la matière, qu'il soit instrumental, qu'il soit produit par un objet. Et peut-être que ça nous renvoie, ce travail sur le son que vous avez, nous renvoie à notre fragilité, qui est la condition humaine, sa naissance et son extinction, de la naissance à la finitude. Il me semble que là aussi, il y a un rapport totalement essentiel entre notre chemin de vie et ce que peut-être aussi l'existence d'un son. Qu'en pensez-vous ?
Alors, effectivement, au niveau de la charge du son, pour moi, c'est très important. Et c'est pour ça qu'en écrivant plusieurs de mes pièces, j'annexe toujours les compositions à une sorte de livret qu'on pourrait apparenter à un opéra où pour chanter, mais il faut forcément une histoire. Eh bien, j'apparente les sons à jouer avec un livret. Et d'ailleurs, Jean-Pierre Peuvion, vous avez cité, était toujours friand de ce genre de remarques, dans Una Nota notamment, en répétant avec lui, je lui avais dit, Jean-Pierre, tu dois imaginer que tu cours dans un couloir, arrivé au bout du couloir, tu ouvres la porte de gauche, tu es en fait dans l'univers, dans l'univers infini, mais devant la porte, il y a Louis XIV qui est là et qui te regarde droit dans les yeux. Ça l'avait beaucoup amusé. Ce sont des images qui le permettaient de nourrir et de charger le son. J'avais écrit un quatuor à cordes à l'époque, un trio à cordes dans lequel le premier mouvement n'avait pas été assez chargé de son. Et j'ai beaucoup réagi par rapport à ça. Notamment, j'ai écrit du coup un quatuor à cordes pour 4 non-violonistes, mais qui étaient des musiciens. Et donc, qui ont pu mettre beaucoup d'énergie dans le son, à base d'images que je leur donnais. Notamment, par exemple, de jouer un arc roman, qui d'une voûte comme ça, qui part à 15 mètres de haut, et dont on ne donnerait qu'une esquisse de cette courbe, tandis que dans le quatrième mouvement, on rentrait dans un univers très asiatique, où on était face à des momentanés comme ça de vie quotidienne asiatique, et il fallait nourrir ça dans le son. Donc pour jouer les pizzicati, il fallait absolument avoir ce film en soi. Alors, ça c'était une première chose. Je peux aussi dire, par exemple, dans une pièce pour orchestre que j'avais écrite, et qui est liée à cette idée, c'est-à-dire j'ai écrit une sorte de grand télescope sonore, donc toute la musique est construite en forme de télescope, et c'est un télescope, bien sûr c'est un peu science-fiction, mais qu'on envoie dans l'univers, et donc en quoi, si on charge le son, et qu'on le charge aussi d'envie et de désir, et qu'on le lance dans l'univers, comment éventuellement tout ça pourrait nous revenir. Donc c'est lié aussi à tout le travail que je fais avec ce qu'on pourrait appeler les non-musiciens, les non-musiciens, donc les amateurs.
Oui, ça c'est quelque chose qui est très fort dans votre démarche, cette liaison, on pourrait dire pratique amateur, pratique professionnelle, mais en tout cas cette non-distinction et au contraire, cette complémentarité est essentielle aussi pour vous.
Elle est essentielle parce que je pense que tout un chacun est porteur de poésie, porteur de force, de désir, et donc dans le travail justement des pratiques amateurs, et notamment par exemple avec du papier, on se retrouve à ce moment-là avec un dénominateur commun. pas avec quelqu'un qui joue, par exemple, très bien du piano et une personne qui n'a jamais joué de musique. On est tous égaux avec la pratique, par exemple, du papier. Ça permet vraiment à chacun de trouver sa place. Je pense que c'est important pour tout un chacun de trouver sa place pour être en équilibre et en harmonie.
Complètement. Alors, pour en venir, j'évoquais dans mon introduction, effectivement, à votre accueil, l'oracle de papier, et vous venez de prononcer aussi le terme papier, donc cette matière son qu'est le papier. Finalement, il y a aussi tout ce que vous venez de dire, mais en même temps, ça rejoint aussi, je dirais, des éléments familiaux, des éléments d'enfance aussi, puisque votre père juriste à Interminus, il y avait une papeterie aussi face à un grand étang. Et bien sûr, on sait qu'il faut de l'eau, bien évidemment, pour fabriquer la pâte à papier, mais que là aussi, la fabrication du papier, c'est tout un univers sonore, c'est des machines, c'est là aussi, j'imagine que vous avez été à la fois pris par le côté que l'arbre, le côté vivant, le côté racine, le côté univers, le côté liaison aussi cosmique qu'on pourrait aussi penser par rapport à ça. Et puis, toute cette procédure de fabrication assez ancestrale, puisqu'on sait que même s'il y a encore de discussions sur l'origine du papier, mais en Asie, en même temps, tout ce côté sacré de travail de matière et de fabrication du papier.
Mais j'aimerais rebondir, je me fais un plaisir de rebondir par rapport à ça avec une petite anecdote.
Oui.
C'est que si à la maison, nous écoutions toujours, mes parents écoutaient toujours la musique baroque, et principalement Jean-Sébastien Bach, on écoutait les cantates, les messes, etc. J'ai vraiment baigné là-dedans. Petite anecdote, ma grand-mère, la mère de ma maman, en fait, habitait au 10e étage d'un appartement, d'un building, et elle adorait, il y avait une petite, dans la cuisine, une petite porte dans laquelle on pouvait jeter, par exemple, une canette de boisson, une boîte de conserve. Elle disait, écoute bien, et on écoutait, on entendait la boîte qui tombait.
C'est excellent.
Tout en bas. Donc, elle m'a vraiment appris, ma grand-mère, qui adorait la musique, elle jouait du violoncelle, à aller écouter le son jusque dans le moindre. Voilà. Et donc, maintenant, si je parle de la papeterie, il y avait en face de la papeterie, effectivement, un grand étang qui était vraiment très, très, très calme. Mais la machine à papier, qui était de l'autre côté de la route, dans l'usine, quand on ouvrait la porte, je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi puissant, aussi sonore.
C'est
et mon père me disait, regarde, là, il y a la pâte. Et donc, c'était fascinant de voir cette bac avec la pâte, savoir que l'eau était pompée dans les temps. J'avais une conscience très, très forte que c'était les arbres, la nature.
C'est ça.
Et que ça roulait dans une série de cylindres pour se retrouver avec un rouleau qui se grandissait d'un mètre, 1,50 mètre de papier à une vitesse vertigineuse avec un papier super fin. C'était fascinant et c'est vrai qu'on avait un respect immense du papier. Mon père revenait avec des rames de papier, il les sortait, il ouvrait toujours un des paquets pour nous montrer telle texture. Et moi, j'ai fait le lien avec ma grand-mère parce que tout était lié au son.
C'est ça.
Donc, forcément, j'entendais...
Vous entendiez le papier déjà autrement et vous aventuriez dans la texture, quoi. Hein.
C'est ça. Et l'autre coïncidence, c'est que j'ai épousé une femme coréenne qui est chorégraphe et qui travaille beaucoup avec le papier aussi. Donc quand je l'ai rencontré, j'étais très étonné. Et avant ça, j'avais aussi travaillé notamment un quatuor à cordes avec le quatuor quadro, où j'avais préparé le violon du premier violoniste avec du papier. Et le public avait une enveloppe à ouvrir et dedans il y avait le programme, parce que c'était pour une messe de mariage, avait le programme de la cérémonie dans l'enveloppe sur du papier de soie. Donc en un moment, il y a 500 personnes qui ont ouvert cette enveloppe et tout le papier de soie s'est ouvert pour lire le programme, c'était très beau.
Et je crois que c'était une bande dessinée, je crois, dans cette petite enveloppe.
Alors, ce n'était pas une bande dessinée, mais une des partitions de ce quatuor à cordes à jouer était une bande dessinée à interpréter qui s'appelait Meurtre à Chicago.
C'est ça.
Et donc, voilà. Et à un moment, tout était lié avec le papier. À un moment, il y a un grand rouleau de papier qui a été déroulé devant le quatuor à cordes. Il fallait suivre des jeux de couleurs.
Ouais.
Bon, le résultat était comme il était, mais disons que c'était un moment quand même... passionnant parce que tous les quatuors suivaient, ils avaient chacun leur couleur, ils essayaient de suivre ce rouleau qui se déroulait devant eux, comme la machine à papier, si je puis dire, mais dans l'autre sens. Et voilà, c'était lié au papier. Et Kyung Garyu, donc la chorégraphe qui utilisait beaucoup de papier aussi, travaille beaucoup avec le papier.
C'est
dans son enfance, chez ses grands-parents, tous les murs étaient en papier.
Ah,
et
oui.
Donc on n'aurait jamais imaginé tomber, parce qu'on aurait cassé le mur en fait.
Bien sûr.
Donc tout ça mis ensemble, je me suis dit à un moment, voilà, plus. explique mon travail de réduction. J'écrivais des pièces pour orchestre, je réduisais des quatuors à cordes, je réduisais pour violon, etc. À réduire, puis je les ai réduits pour instruments coréens. À un moment, tout ça mis ensemble, j'étais à Helsinki, j'ai eu vraiment un flash. Mais si je prenais le papier comme étant un c'est instrument ça. En soi, et en soi, c'est le cas de le dire,
en soi.
Et on pourrait partir de ça. Et j'ai vraiment vu, parce que quand je travaille, à la fois, j'entends, mais je vois un film. Donc j'ai vu vraiment 15-20 personnes assises, un peu, comme on dit, comme à l'aïkido, comme ça, donc au sol, puisqu'en Corée, on est toujours au sol, et de pouvoir faire de pouvoir jouer avec la spatialisation. C'est-à-dire, on fait froisser du papier à gauche, puis à droite, donc le son se balade. Et donc, j'avais raté mon avion, je devais dormir à Helsinki, donc j'ai pris une série de papiers de brouillon, et j'ai fait des dessins sur un rectangle où il y avait, à l'époque, je pense que j'avais commencé avec 24 croix, si je ne me trompe pas.
Tout à fait.
Comme ça. Et donc, on pouvait se balader. J'avais même dit qu'il peut y avoir la rangée de droite dessous, puis la suivante jusqu'à la dernière rangée de gauche. Donc, ça faisait des vagues de papier. Et c'est parti de cette idée-là, en fait, le reste de papier.
Oui, c'est vraiment une très, très, très belle idée. Et vous évoquiez aussi le rapport des mots quand vous évoquiez tout à l'heure les idées, en tout cas, même le côté rapport au film et le côté avec Jean-Pierre Peuvion aussi, le rapport des mots. Quand on parle aussi de l'oracle de papier, il y a tout ce que vous venez de nous dire et qui fonde véritablement votre intérêt par rapport à pousser les choses jusque-là et à vous aventurer dans vraiment l'écriture à partir de cette source sonore. Et puis, il y a un texte aussi d'un poète belge aussi, et cinéaste belge, donc Ernst Moorman.
Ernst Moorman, qui n'est pas connu, qui est considéré comme étant un surréaliste. Oui. Et c'est très beau, hein. Si vous voulez, je peux vous lire le début du...
Volontiers.
Voilà. Alors, ce poisson en papier qu'enfant nous faisions onduler, aujourd'hui exécute des sauts terribles. Se cabre et répète sa propre agonie. Les sueurs nocturnes sur le corps du fiévreux tracent un message écrit. Pour déchiffrer cet oracle, les linges imbibés de signes soigneusement doivent être étendus et le texte doit se lire dans un miroir. Toi qui prends la forme du hasard et prétends habiter avec moi, réponds par oui ou par non. Es-tu jalouse de mes nuages et veux-tu les devancer? Toi qui lis ce que j'écris, es-tu jalouse de mes nouvelles, de mes mauvaises nouvelles, de mes yeux qui sèchent trop vite, de me savoir plus léger, entendrai-je ta musique chaque fois que je mourrai? Et c'est de là que j'ai extrait le titre, puisqu'il y a le mot papier, par hasard, il y a le mot oracle,
tout à fait.
Et de me savoir plus léger.
Magnifique
donc,
texte.
Le titre oracle de papier, entre parenthèses, de me savoir plus léger. Oui, c'est un très beau texte, oui.
Pour juste situer donc ce poète, il est né en 1897 et il nous a quittés en 1944, ce qui nous permet aussi...
C'est bien ça.
Voilà, et cet extrait donc de 37,5 d'une œuvre poétique où donc figure ce texte « Ce poisson en papier ». Et ça, c'est vraiment magnifique. Alors peut-être, Benoît de Jarre, avant de poursuivre peut-être un petit peu plus avant comment c'est forgé, comment vous êtes lancé dans l'écriture de l'oracle de papier, je vous propose de faire entendre aussi une de vos œuvres que vous avez écrite et qui me semble aussi aller dans ce même propos, dans cette même recherche. Là, c'est pour... vous allez régulièrement en Corée et vous, bien sûr, vous avez découvert aussi l'univers musical traditionnel, aussi de certains instruments traditionnels. Et vous vous êtes attaché à l'un particulièrement, enfin, à beaucoup d'autres, mais il y en a un que vous appréciez énormément et pour lequel vous écrivez beaucoup. Le Gwemungo.
Non, le Gomungo.
Le Gomungo, voilà. Le Gomungo. Oui. Et peut-être je vous propose, et on en reparle un petit peu après, d'entendre aussi, pendant quelques instants, une œuvre que vous avez écrite de tout un cycle des héros, tout un cycle de 22 pièces que vous avez imaginées. Je vous propose d'en découvrir une à l'instant. Thank you. Résonance sur Radio B, l'oracle de papier avec le compositeur Baudouin de Jarre. Donc là, nous venons d'entendre Baudouin, donc un extrait de ce cycle Héros pour la pensée, donc qui comporte 22 pièces, mais qui nous emmène aussi, je dirais, de manière peut-être très 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 proche de ce que peut être aussi le centrage sur le son, sur le centrage d'un instrument avec ses sonorités, sa matière, qui est très particulière justement de cet instrument, mais qui finalement peut nous rappeler aussi le papier, je trouve.
Moi je trouve aussi, tout à fait, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est un instrument, c'est une sitar coréenne à 6 cordes, qui est un instrument grave et qui se joue avec un plectre, mais le plectre est un bâton de bois d'environ 20 cm, assez fin. Et donc on attaque la corde avec ce bois et on peut l'attaquer à ce point fortement que le bois peut cogner la table de l'instrument. Mmh. Alors sa particularité, c'est que les sons ne sont joués que sur deux cordes que l'on pousse avec les doigts de la main gauche.
Oui.
Et les cordes sont posées sur, elles sont au-dessus de 16 chevalets.
Mmh.
Et donc c'est en poussant la corde entre les chevalets qu'on peut aller chercher les sons, et comme les cordes sont molles, on peut non seulement appuyer sur la corde, on peut la pousser également. Mmh. Et les trois autres cordes sont des sortes de bourdons qui sont des si bémols à l'arrière et un fa devant, et donc l'instrument est souvent joué en si bémol, pour résumer, on va dire, hein,
c'est
avec
ça.
Des si bémols, des fa, des ré bémols, et puis après on sort un peu de la couleur de l'instrument.
Et l'instrumentiste est assise au sol, hein, c'est pas la sitar est déposée devant elle.
Voilà, et donc posée à moitié sur les genoux. Et donc c'est un instrument très 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 puissant, très 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 fort.
C'est ça.
Et quand on frotte les cordes sur les chevalets, en fait on a un son, un frottement comme ça, qui peut faire penser à des froissements de papier justement. Donc on a peut-être ce lien là, mais effectivement c'est un instrument très orchestral. Mais pourtant, il n'y a que deux cordes sur lesquelles on joue. Donc, on a un instrument assez percussif.
C'est ça. Ouais.
On a des grands vibratos. Mmh. On a le son de la contrebasse. Mais on peut aussi jouer, mais pas souvent avec un archet.
Oui.
Mais donc, voilà. Mais c'est un instrument vraiment passionnant. Et j'ai eu un véritable coup de foudre pour cet instrument. Alors, j'ai écrit une première pièce pour Komungo avec Chango. Mmh. Je suis parti en Corée, on l'a essayé, mais en fait il ne fonctionnait pas bien parce que je n'avais pas encore bien maîtrisé l'instrument.
C'est ça.
Et je l'ai montré à un grand joueur de Komungo que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup, Kim Myung-jae, qui m'a dit c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut vraiment écrire principalement pour des si bémols, etc. Alors je suis rentré un petit peu en Belgique, un petit peu désorienté.
Oui, c'est ça, j'imagine.
J'ai décidé de ramener toute la pièce uniquement sur la note fa. Donc j'ai raboté tout à la note fa. Avec d'ailleurs, si c'est sur l'application Sibelius ou une application d'ordinateur, c'est facile, on appuie sur une touche et tout se rabaisse. Et puis j'ai découpé certaines sections de ces longues lignes de fa, et ça m'a donné ce que j'ai appelé les lines, donc les lignes où, pour Komungo, on n'a qu'un seul son avec des petites exceptions. mais j'étais à la recherche
d'autres
sources pour continuer.
C'est ça.
Et le hasard a voulu que des artistes qui habitent à Neuchâtel, qui font partie du centre d'art contemporain de Neuchâtel, qui s'appelle le CAN, qui sont des très bons amis, qui étaient tenus à l'époque par Arthur de Curie, il m'avait dit, voilà, on a fait une performance de... alors, j'oublie malheureusement son nom, mais un artiste avait mené une performance là-bas, basé sur l'abécédaire de Deleuze, où on a trouvé les lettres de l'alphabet, et à partir de chacune des lettres était associée, donc là on se retrouve dans la charge du son, évidemment, est associée à un thème. Donc A c'était alcool, B c'était bâtard, etc., et il y avait tous des mots. Ils avaient invité une série d'anthropologues, de philosophes, de gens assez renommés, d'universitaires, etc., pour débattre chaque fois pendant une heure de chacun des thèmes. Et il y avait une série de règles du jeu. À chaque thème était associé à un vin et ils étaient dans l'obligation de boire du vin pendant qu'ils discutaient de ce sujet. Ils avaient donc 24 heures en enfilade et ils avaient tous droit à une heure de sommeil. Et entre chacune des discussions devant le public, évidemment, c'était enregistré. Il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Les héros de la pensée où tout a été retranscrit à la lettre près, au mot près, à l'expression près. Oui. Ensuite, ils ont entre chaque morceau, ils avaient des instruments avant, des trompettes, des cordes, des trombones, et ils devaient improviser. Alors, ils n'étaient pas du tout musiciens, pas du tout. Et là, Arthur de Curie me dit, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, prendre tous les instruments des improvisations et les retranscrire sur des partitions parce qu'on doit les mettre dans le livre. Je dis, attends, mais c'est un travail énorme.
Oui.
Mais j'ai eu un coup de cœur et je m'y suis mis. Je lui ai fait quelques propositions. Graphique, et le livre est sorti avec, après chaque lettre, on ouvre une partition et on a c'est toute ça. La partition de l'improvisation.
Ah, c'est formidable.
Et il se fait, le lien incroyable, c'est que comme tous ces instruments sont en gros en si bémol, le trompette, trombone, le cor, voilà, ça donne une sorte de brouhaha autour du si bémol, et c'est devenu comme des cascades, en fait. Donc quand les moines tibétains vont près des cascades et ils entendent dans le bruit blanc, ils entendent d'autres voix. Et c'est ce qui m'est arrivé, à force de travailler là-dessus, il y a le Komugo qui est arrivé dans ma tête, qui s'est mis là-dedans, et en entendant les improvisations et en reprenant les partitions, j'ai entendu des voix beaucoup plus lentes qui s'échappaient de ce brouhaha. Je les ai pointées avec un crayon rouge dans toutes les partitions.
Oui.
Là, j'étais dans un état vraiment
chaud,
comme on dit. J'étais prêt à le faire. Et j'ai sorti comme ça tous les héros. C'est comme ça qu'ils sont sortis.
En tout cas, c'est tout un cycle merveilleux qu'on ne manquera pas justement de rediffuser certains extraits au cours de nos prochaines émissions, tellement je trouve qu'il est important de découvrir aussi l'instrument, bien sûr, mais aussi votre musique. Et là aussi, c'est ce qui est également intéressant. Nous sommes avec un instrument de la tradition, mais comment aussi justement la tradition nourrit notre présent, nourrit l'imaginaire quand on ne la considère pas figée ou comme un aspect dogmatique, mais au contraire, comme une source pour aller de l'avant. Et là, tout à fait ça.
Ah oui, là vraiment, alors je ne sais pas si je rebondis correctement, mais il y a deux choses que j'ai envie de dire
sincèrement.
C'est que, d'une part, quelle beauté et quelle chance on a de pouvoir découvrir des instruments qui viennent de l'extérieur. Et je pense que le Komugo, le Gayagoum, le Degoum, tous les instruments coréens sont d'une grande beauté. On a beaucoup intérêt à les découvrir. Quand on va à Séoul, on va à l'université, là-bas, l'université Séoul de Corée, on remarque que tous ces musiciens jouent des instruments comme la flûte, le piano, le hautbois, etc. Mais en plus, jouent leurs instruments que, à tort, on appelle les instruments traditionnels.
Tout à fait.
Tout à fait colonial, presque, parce que ce n'est pas les instruments traditionnels, c'est les instruments coréens.
Coréens.
Eh bien, nous, dans nos universités, mais on a rien, à part un peu de djembé, on n'a rien. On n'a rien. On a tout intérêt. On doit vraiment faire le pas pour aller chercher toutes ces choses magnifiques. Et c'est un très bel apport. Et c'est vrai que le Komungo, pour moi, je l'ai toujours vécu, pas comme un vieil instrument, mais comme quelque chose qui est vraiment dans le futur. J'ai l'impression que quand on aura réduit,
dans votre musique.
On aura été, oui, quand on ira, on aura réduit les choses, on aura été à l'essentiel. Mais on se dirigera vers des instruments comme ceux-là, donc qui sont presque projetés dans le futur. Hein.
Voilà. C'est là où on voit bien que, pour revenir à l'oracle de papier, toute la force aussi que représente cette pièce et cette manière justement de réduction, mais de se centrer effectivement sur une matière précise et de voir qu'elle nous ouvre appelle à son tour une multiplicité d'horizons, une multiplicité de possibles.
Tout à fait. Avec le papier, quand on prend l'outil papier, on va commencer par l'explorer. C'est ça qui est... Maintenant, on avance un peu dans la conversation, mais on se remarque que tout un chacun peut être très créatif et que la dame ou le monsieur qui... Je sais pas moi, qui est venu là à un orchestre d'un jour ou une rencontre autour du papier et qui vient du bureau de poste ou monsieur qui est architecte ou le livreur de vin qui débarque, eh bien, on est tous pareils dans la recherche du son. On n'est plus en train de se dire « Oh, je ne suis pas qu'une artiste, la musique, c'est pas pour moi. Et de toute façon, j'ai pas d'oreille, j'ai pas de rythme, je n'en ai jamais eu. On me disait toujours « Je chantais faux » et puis la musique, c'est pas pour moi. » On est complètement en dehors de ce champ qui est d'ailleurs pour moi tout à fait erroné. Oui. C'est un non-sens et c'est une catastrophe pour la société parce que tant de gens ont été brimés, on leur a dit « Tu chantes faux, il s'est passé ci. » Et puis des gens disent « J'ai pas d'oreille. » Mais comment est-ce qu'on peut dire « J'ai pas d'oreille » C'est insensé de dire « J'ai pas d'oreille. » On a tous son oreille, on a tous son propre dream. Et d'ailleurs, les quelques fois que j'ai eu la grande chance, l'immense chance de travailler avec des personnes dites en situation d'handicap, c'est eux qui sont les plus extraordinaires au niveau de la polyrythmie. Ce qui rejoint les magnifiques voyages que j'ai fait par exemple chez les Pygmées, où les gens sont en plein mode... polyrythmique, et qui ont inspiré les plus grands compositeurs. Donc c'est une boucle sans fin.
Absolument.
Mais à nous d'essayer de ne pas se dire « Oh, ce n'est qu'au niveau des Akas et de Ligeti que la connexion se
c'est
fait. »
Non,
elle se fait à la maison, elle se fait avec deux voisins, elle se fait avec tout le monde qui a son propre rythme. C'est quand même normal. On a tous notre propre rythme, on a tous notre propre voix, il faut construire avec ça. Et l'oracle de papier est une... outre le fait qu'on l'a joué, que la partition est écrite, qu'on a dû la jouer au conservatoire avec des étudiants de formation en langage contemporain dirigés par Brigitte Faucroul, etc., on peut sortir de ça, et grâce à cette collaboration avec vous aussi, Résonance Contemporaine, ensemble, je dirais, on a pris conscience que cette matière, vous le saviez certainement déjà de votre côté et moi du mien, mais on a travaillé là-dessus parce qu'on peut l'explorer comme un outil où chacun peut se développer tel qu'il est à ce moment-là, que la personne soit en situation de handicap ou pas, ou l'autre personne à côté, même ça, c'est anéanti, parce qu'on a chacun notre rythme, on a nos choses à dire, et alors là, on décolle dans le futur, quoi, je pense.
Et c'est ce que je trouve qui est assez remarquable au travers de votre démarche, et vous venez de totalement, je trouve, bien l'exprimer, et les enjeux aussi qui sont sous-tendus dans cette démarche, dans le fait où l'oracle de papier joue bien ce rôle-là, puisqu'il a été, comme vous le disiez il y a quelques instants, imaginé pour 15 froisseurs de papier, un baryton, il y avait une direction musicale.
C'est vrai.
D'un autre côté, effectivement, vous aviez écrit une version pour 4 froisseurs de papier.
Oui, qui n'a jamais été joué.
Voilà, que nous, on s'est emparé finalement, au niveau des percussions très fort. Et puis, du coup, on a commencé d'imaginer autour, tout en gardant la notion de papier, le texte aussi, ce magnifique texte d'un poisson de papier que vous nous avez lu de tout à l'heure, de comment on peut s'en emparer et comment il y a le graphisme. On parlait du papier, mais aussi de comment on peut écrire. Enfin, comment toute une autre, tout en prenant au cœur du sujet l'oracle de papier et sa facture, comment elle nous a ouvert d'autres horizons et on a fait un spectacle que nous tournons aussi. Et c'est ce qui nous a conduit d'ailleurs aller à la rencontre donc de ces collégiens de Renaison avec leur professeur de musique, Bruno Berthelard, qui bien sûr, dans sa démarche quotidienne musicale, emmène aussi ces collégiens à la découverte de plein de choses et aussi de ces univers, de ce rapport au son. Hein. Et c'était un plaisir, effectivement, donc de pouvoir travailler au cours de tout cet après-midi. Mais ce que je voulais soulever, c'est que, du coup, vous n'êtes pas resté enfermé dans une procédure de l'oracle de papier, 15 froisseurs de papier, hop,
il
passe à d'autres choses. Et encore, il s'ouvre à d'autres choses, puisque dans Orchestre d'un jour, et même, vous avez repris l'idée, mais vous disiez, je me suis aperçu qu'il était plus simple de le faire sans la partition. Et de là,
absolument,
est partie une nouvelle aventure où chacun vient diriger, où chacun vient dire des textes que l'on veut, et ça ouvre totalement autre chose.
Mais oui, j'ai deux petites idées par rapport à ça. Quand je fais les oracles de papier, les orchestres d'un jour, de plus en plus j'insère l'oracle du papier. Je l'ai fait par exemple en Hollande avec l'ensemble 88, et tout d'un coup j'avais préparé tout pour l'oracle devant l'orchestre. J'avais travaillé l'oracle avec l'orchestre pendant la journée, et tout d'un coup, après un morceau d'introduction, je me suis retourné vers le public de façon un peu clownesque, et j'ai été chercher des gens, mais sans parler, comme si je me suis
muet,
j'ai été chercher des gens, ils se sont assis, je leur ai donné un papier, dès qu'ils savait pas quoi faire. Puis à un moment, j'ai montré qu'on pouvait froisser le papier. Puis j'ai commencé à diriger toute pièce oracle de papier sans parler, en fait. Et on avait mis des mots que les gens avaient écrits avant de rentrer dans la salle. Ils avaient écrit des mots, des phrases, je ne sais plus sur quelle thématique, qui étaient lus alors par un diseur de texte, un récitant, qui était aussi choisi dans le public et qui parlait dans un... Vous savez, les cônes pour les travaux, un porte-voix. Et c'était super, ça marchait bien. Autre chose, et ça, je vous en avais fait déjà part, c'est que j'avais travaillé dans une école avec des enfants, dont la plupart étaient autistes. Alors là, c'était passionnant parce que j'avais mis un grand papier par terre, les enfants ont couru dessus. Et j'ai dit, attention, c'est un grand papier que j'ai reçu, et j'ai parlé de mon père, travaillé à la papeterie, et ils se font marcher comme des petites souris sur le papier. Ensuite, j'ai donné des feuilles de soie à tout le monde, et là, ils étaient tout foufou. J'ai dit, attention, c'est des papiers qui viennent de Corée, il faut être très soigneux, parce que là-bas, les murs sont en papier et tout ça. Et du coup, les enfants ne bougeaient plus, mais les éducateurs avaient jamais vu ça. Ils disaient, on n'a jamais vu ça.
C'est ça.
Alors là, je dis, et les enfants, je regarde, cool, hein, je dis, parce que j'avais l'impression de les avoir bloqués complètement. Et en fait, on a réussi à partir...
Ouais.
À la base, en un coup, à des choses très très fines. Et j'avais déjà entendu des choses comme ça. Il y a en France, je ne sais plus, quelqu'un qui a fait une immense sculpture d'une oreille externe et interne. Et quand on se promène dans l'oreille interne, les parois sur lesquelles on marche sont pas droites. Et il y avait une personne qui avait une difficulté et qui disait toujours des sons comme ça particuliers, comme un toc. Et il paraît que là, tout d'un coup, il disait tellement je m'excuse parce qu'il cognait tout le monde. C'était un peu une légende, mais c'était un peu ça, quoi. C'est comment l'art arrive tout d'un coup, c'est beau, quoi, à casser le plat, le rond. Il marchait plus sur un espace habituel, donc ça déclenche autre chose dans le... Parce que finalement, notre corps a une partie immense par rapport à notre esprit, et donc tout d'un coup, il se déclenche des choses. Et je pense avec Oracle, on a vécu la même chose avec ces enfants autistes. Et c'était un grand moment, franchement. C'était un grand moment dans le sens que c'était porteur de continuer l'aventure. Ce que je fais d'ailleurs lundi prochain en Belgique.
Alors je vous propose, Baudouin Dejart, pour conclure cet échange téléphonique, d'entendre maintenant les retours donc de ces collégiens du collège de Renaison avec leur professeur Bruno Berthelat, avec lesquels nous nous sommes aventurés à partir de l'oracle de papier, mais allant dans l'état d'esprit que vous venez de dépeindre. Et ceci au bout de 3 heures et demie de travail, ont livré leur retour, leurs impressions, leur étonnement, leur manière de comment ils avaient vécu justement cette aventure avec le son, comment ça avait joué aussi sur ce qu'ils étaient, sur le fait de se rendre compte qu'on pouvait faire énormément de choses et qu'il y avait quelque chose de très important musicalement, c'est-à-dire que cette musique prenait un sens particulier, le fait qu'elle était utilisée, qu'elle émergeait du papier, là on avait rajouté des vers aussi et de la voix, et que tout ça donnait du sens très profond à ce collectif qui était réuni fin octobre dernier au collège de Renaison. Alors je vous remercie énormément, Baudouin Dejart, de ce moment, de nous avoir accordé ce moment.
Et j'en profite pour dire bonjour à tous les étudiants de cette école et de remercier leur professeur de tout cœur.
À très bientôt, Baudouin.
À bientôt.
Au revoir.
Madame Bouddha, merci. Au revoir.
Ok. Qui est-ce qui veut nous livrer ses impressions? Ici, nous sommes dans le collège de Renaison et on vient de vivre un moment d'invention, de recherche sonore avec toute une classe de 5e.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'était une expérience que j'oublierai peut-être jamais dans ma vie. Ça nous a appris... moi, j'ai appris à faire sonner un verre. Alors, ça, c'est incroyable.
C'est intéressant de faire sonner un verre.
Oui.
T'avais jamais essayé?
Si, mais si. Ça marchait pas.
Ah, ça marchait pas. C'est vrai qu'il faut choisir aussi les verres. Donc, du coup, il faut qu'on choisisse les sons avec lesquels on a envie de jouer, les écouter, les malaxer, les regarder sur différentes faces.
Oui, ça doit peut-être être ça. En tout cas, je n'oublierai peut-être pas cet après-midi.
Tu me redis ton prénom ?
Mathias Gimenez.
Voilà, merci Mathias. Peut-être qui est-ce qui voudrait rebondir à ce que vient de dire justement Mathias ? Je me rapproche.
C'était super de faire de la musique avec des papiers, avec différents papiers, faire de la musique aussi avec des vers. Parce que c'est pas tout le temps qu'on fait de la musique avec des papiers, même au collège. Et j'ai bien aimé.
Super. Et tu redis ton prénom?
Je m'appelle Nélis.
Nélis. Qu'est-ce qui veut rebondir derrière les propos de Nélis?
C'est à la fois la musique et à la fois calme et à la fois aussi énergique et on écoute ça rarement. C'est pas tous les jours, c'est pas ça. Et aussi c'est pas ça sort pas de l'ordinaire, c'est pas des paroles, c'est des instruments. Et ça c'est bien.
Je trouve que c'est important de pouvoir s'aventurer comme ça un peu dans les
Bah
matières.
oui, il faut pas rester sur ce qu'on sait déjà, faut aller encore plus loin.
Donc du coup, peut-être envie d'aller un petit peu plus loin dans comment sonnent des papiers, par exemple.
Oui.
Ouais. Bon, j'ai vu que tu jouais beaucoup aussi avec ta voix, par exemple.
Oui.
Ouais. Et tu pourrais nous faire un petit quelque chose de par exemple, de comment on a joué un peu avec notre voix. Il y a plus des formes très différentes. Super. Tu redis ton prénom, s'il te plaît.
Yon.
Johan. Merci, Johan. Qui veut rebondir derrière Johan? Je me dirige jusque vers toi parce que, chers auditeurs, la salle est grande et il faut que je me déplace.
J'ai trouvé que c'était génial et tout le monde a participé. Du coup, c'était bien et tout le monde joue un rôle important dans cet après-midi, dans cette activité.
Oui, tu as trouvé
Voilà.
que c'était important que le collectif, du
Oui.
coup, soit engagé,
Oui.
chacun ayant une place dans ce collectif.
Oui.
Et de t'aventurer comme ça dans les sons de papier,
Ah, c'était trop bien.
c'était trop bien. Donc à poursuivre alors.
Oui,
Hein?
à refaire si possible.
À refaire. Qui est-ce qui veut... Alors redis-moi aussi ton prénom.
Thaïs.
Thaïs. Qui veut rebondir aussi derrière
Ce serait
Thaïs?
possible d'être grâce à ma hauteur.
Je vais essayer. Oui. Alors.
Bonjour.
Bonjour.
Je m'appelle Léo et moi j'ai trouvé que cette expérience était bien, le fait de mélanger tous les sons, le papier, le verre, les différentes voix aussi. J'ai trouvé que c'était super.
Bon, génial. En tout cas,
Oui.
tu t'es beaucoup aventuré, toi aussi,
Oui.
vocalement.
Oui,
Hein?
oui.
T'aimes aussi jouer avec ta voix?
Oui, je faisais ça quand j'étais petit d'ailleurs.
C'est vrai?
Oui.
Et comment tu jouais alors, petit? Comment
Comment
tu
je jouais,
utilisais ta voix?
des fois quand je parlais, j'aimais bien monter vers les aigus.
Ouais.
Quand je bah ça dépendait les mots.
Bien sûr.
Oui.
Donc de jouer avec ta voix, alors on sent, hein, ta voix t'as mué aussi.
Oui, j'ai
Hein?
mué, oui. Du coup,
Donc
je peux plus trop.
voilà, du coup tu vas retrouver plus tard un petit peu,
Bah
le temps
oui.
que ça s'installe, hein, les registres de la voix. Mais du coup, tu aimais bien aller voyager, notamment d'aller chercher dans ta voix aiguë, quoi.
Oui.
Super. En tout cas, tu as été très présent. Peux-tu me redire la phrase justement avec laquelle tu jouais?
Alors, vous pouvez me dire quand j'arrête. Vous pouvez me dire quand j'arrête. C'est tout. Il n'y a pas de suite.
Parfait. Tu me rappelles ton prénom?
C'était Léo Mivière.
Voilà, merci. Qui est-ce qui veut enchaîner derrière? Très bien.
Bon, je m'appelle Yanaël et j'ai bien aimé cette aventure passée cet après-midi.
Qu'est-ce qui t'a plu dans tous les moments qu'on a pu faire, expérimenter justement?
Et le papier, les verres, ça résonnait, on dirait les haut-parleurs de la pièce.
Ah, intéressant ça, les haut-parleurs de la
Oui, on
pièce.
dirait que ça venait du haut, donc.
Ouais.
Très belle aventure cet après-midi.
T'as aimé aussi, à la fois aussi jouer avec ta voix, on entendait avec Théo là tout à l'heure, qui lui aussi a joué avec sa voix, mais toi aussi, c'est quelque chose que t'aimes bien, comme ça, de t'aventurer avec ta voix?
J'ai jamais fait ça.
D'accord.
J'ai découvert ma voix.
Ah ouais, moment important alors. Super, merci à toi.
De rien.
Qu'est-ce qui va enchaîner derrière?
Je m'appelle Sarah et j'ai beaucoup aimé cet après-midi, surtout quand on a joué avec les verres, les bruits. On dirait que c'était une berceuse pour enfants. J'ai bien aimé.
Oui, tu as senti que c'était une espèce de berceuse alors.
Oui.
Qu'est-ce qui t'a fait penser à ça?
Le bruit comme si que c'était une berceuse pour enfants.
À cause du son un petit peu. Oui, comment doux. Il met ce son des vers.
Bah doux et des fois grave sur d'autres vers.
Parce que du coup là on a entretenu un peu le son, ça faisait des sons longs.
Oui.
Bon après on pourrait voir en s'habituant que de jouer le vers aussi on peut faire des sons plus courts. On peut, bon, on n'a pas eu le temps de tout inventorier bien sûr. Puis ça, faut passer du temps aussi à s'approprier la manière de jouer du vers. Mais ça c'est quelque chose qui t'a plu ça du coup.
Oui.
Donc à essayer à la maison alors ça.
Oui.
De voir comment les vers peuvent sonner. Et ça peut être intéressant de voir, tiens, si je mets de l'eau aussi dedans, ça peut changer ses hauteurs. Je peux aussi faire en sorte que des petites mélodies, finalement.
Bah oui, j'essaierai.
Des harpes de vers.
Oui.
Super, merci. Qu'est-ce qui veut rebondir, Colline? Colline, qui ouvrait la séquence que nous avons essayé de combiner ensemble. Qu'est-ce que tu penses de cette aventure de cet après-midi?
Bah, c'était bien.
Ouais.
Après, je sais pas trop quoi dire, c'était bien. Merci.
Il fallait s'aventurer.
Ouais. Mais faut pas trop être timide.
Voilà. Des fois, c'est un peu difficile, hein, des fois.
Ouais.
Le oser faire, oser se laisser aller, c'est pas toujours.
Ouais.
Ouais. Mais en plus, tu es super bien arrivé. Hein, tu trouves pas?
Ouais.
Ouais. Au début, c'était peut-être intimidant, c'était peut-être un peu délicat. Et puis petit à petit, t'as trouvé comment faire finalement.
Oui.
Bravo à toi. Bravo. Qu'est-ce qu'il veut? On peut continuer. Alors.
Bah moi j'ai trouvé qu'on a appris beaucoup de choses.
Ouais.
Bah que c'est pas tous les jours qu'on va faire de la musique avec les papiers, que c'était nouveau.
Ouais, c'est vrai. Ça c'est intéressant, tu vois, du coup, de rechercher justement la matière papier. Puis en même temps, ce qui est aussi intéressant, c'est de se rendre compte que quels que soient les sons d'un instrument, les sons d'un objet, du coup, ça demande à s'en approcher le plus possible, ça demande à aller le rencontrer, à s'aventurer dedans. Et puis du coup, on découvre plein de nouvelles choses. Puis ça nous aide à écouter tout autrement les choses aussi.
Oui.
Ça change un peu notre manière d'écouter, tu trouves?
Oui.
Ouais. Hein? Peut-être qu'on n'entend plus les choses de la même manière, peut-être.
Non.
Non. T'aimerais continuer à t'aventurer là-dedans?
Oui.
Ouais. Super. Et alors, comment t'as vécu cet après-midi?
Bah bien.
Ouais.
C'était nouveau de faire de la musique avec des papiers.
Ouais.
Je connaissais pas.
Ouais.
Comme avec les vers, je connaissais pas aussi de les faire sonner.
Ouais. À poursuivre alors, à s'aventurer.
J'ai essayé à la maison de faire sonner les vers.
Et oui, c'est une très bonne idée. Tu diras à papa et à maman, faut que je fasse quelques petites choses pour le prof de musique. Que je cherche des choses, que j'essaye des choses.
Hein? Oui.
Ouais, et puis tu nous diras, si tu fais des choses, tiens, on peut s'envoyer des choses après. Des choses que vous auriez fabriquées les uns et les autres. Vous pourriez nous les envoyer et nous, on pourrait les diffuser. En plus, dans l'émission, hein, sur Radio B, qui s'appelle Résonance, du coup, dedans, on fait entendre des tas de choses qui se passent sur le terrain. Donc, si des fois, tu essayes des choses... Ça pourrait être une manière de continuer un peu le travail à distance et de se passer des documents et qui nous font entendre les inventions des uns et des autres. Hein, peut-être, hein? Ouais, qu'est-ce qu'on pense?
Bah oui.
Qui est-ce qui, Bruno? Oui, Bruno.
Bah, très ému d'avoir pu vivre cette création collective avec les élèves de 5C du collège. C'est vrai que c'est une expérience de création. On ne s'est pas posé de questions. Tout le monde y est allé, comme vous disiez, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de barrière. Et on était là pour expérimenter et vous nous avez permis de libérer des choses en termes de voix, en termes d'expérience sonore. Et vraiment, c'est d'une qualité assez incroyable ce qu'on a vécu cet après-midi. Voilà, un grand, grand merci à Résonance Contemporaine pour merci. Ce partage.
Merci Bruno. Armel, peut-être qui est là aussi... Et vous dépendez du Conservatoire de Roanne, qui est un des partenaires aussi importants du projet, de tout ce qui se passe, puisque Résonance Contemporaine est en résidence pendant 3 ans auprès de l'établissement. Et ça fait partie des différents projets et des projets de coopération justement avec le collège, ici de Renaison. Alors de l'intérieur, on a déjà bien sûr vous expérimenté, vous amener aussi différents publics justement dans ces champs. Et peut-être par rapport au vécu de cet après-midi, de la rencontre avec ces jeunes de 5e, votre sentiment au travers de tout ça?
Oui, alors bah déjà, je suis contente de revoir beaucoup d'anciens élèves, voilà, qui ont bien grandi, et je voudrais les féliciter. En effet, c'était super. Et j'ai trouvé qu'en très peu de temps, en fait, en 3 heures, il y a eu une très grande évolution du début de la séance jusqu'à la fin. Voilà. Au début, un peu la panique, le stress, n'ose pas trop. Et puis à la fin, il y a eu des choses magiques. Ils se sont bien libérés. Voilà. Et puis moi, cette œuvre, je la travaille aussi avec un public, l'itinéraire singulier du conservatoire avec des adultes. Et ça me fait envie, en fait, on aurait dû partager cette expérience ensemble aujourd'hui. Mais vu les conditions, ils n'ont pas pu venir. Donc en fait, je serais ravie de leur raconter ce que vous avez fait, les collégiens, à mes adultes, et peut-être qu'on enregistrera aussi des choses et que je ferai passer à Bruno pour que vous voyez un autre groupe travailler différemment l'oracle de papier. Voilà, et merci à toi Alain, parce que c'était super.
Voilà, donc moi, je précise que c'est l'oracle de papier, une pièce du compositeur belge Baudouin de Jarre, avec lequel effectivement les percussions travaillent régulièrement. Les deux des musiciens ont été présents tout au long de cet après-midi. Et je venais vers Mathieu Convert, justement, qui est l'un de ses musiciens. Et comment tu as vécu aussi cet après-midi, cette rencontre avec ces collégiens?
J'ai vécu ce moment plutôt bien. Il y avait une bonne écoute. Après, tout le monde s'est pris tout au jeu. Voilà, quoi.
Oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Il y a eu à un moment donné le collectif qui se forme et chacun trouve cette synergie, la nourrit. Asma, du coup, aussi, le sentiment, après cet après-midi de travail avec ces jeunes, à la rencontre de ces jeunes, au travers de l'oracle de papier.
Moi j'ai bien aimé aussi. C'est vrai que le début était un peu timide, mais c'est normal, on se connaissait pas, il fallait qu'on essaye quelque chose ensemble, et du coup on a trouvé une ouverture et chacun a pu trouver sa place, et ça c'est important que chacun ait pu trouver sa place. Et aussi j'ai bien aimé écouter quand chacun a proposé le bruit de papier qu'il a cherché, et le papier.
Voilà, avec ce reportage et ces impressions de ces collégiens, du collège de Renaison, se termine cette aventure sur comment faire de la musique avec du papier, produire des sons à l'aide de feuilles de papier, et de voir comment cela, en l'occurrence, nourrit toute la démarche d'un compositeur. Donc l'aller-retour entre Renaison, Bruxelles, Mainz, une démarche artistique qui nous a emmené aussi également en Corée, avec, nous avons entendu Baudouin de Jarre exprimer aussi ses sources et l'intérêt dans sa démarche, le lien qu'il pouvait faire aussi avec tout le travail qu'il développe là-bas de composition et d'écriture. Donc je tiens à remercier justement chaleureusement à la fois le professeur de musique du collège de Renaison, Bruno Bertola, ainsi que donc la principale du collège qui nous a permis et facilité l'enregistrement et la réalisation de cet atelier d'expérimentation au sein de son établissement, Rachel Spagnuolo, et puis bien sûr Pascale Amiot, directrice du conservatoire Roannais Agglomération Musique Danse Théâtre, donc conservatoire installé à Roanne, et qui nous accueille pendant 3 années en résidence à mener différents types de projets, dont le projet que nous venons de vous faire part au cours de la présente émission. Donc, Résonance sera diffusée mardi prochain de 13h à 14h, puis vous le savez, dimanche de 20h à 21h. N'hésitez pas à venir podcaster sur le site de Radio B, www.radio-b.fr, la présente émission. Vous pouvez bien évidemment la réécouter quand vous le souhaitez, autant de fois que vous le voudrez. En tout cas, portez-vous bien. À très vite sur Radio B.